Bonjour à tous, chers auditeurs. Il est 11h02 à la pendule de Radio Canu. Un petit peu de retard. Comme tous les dimanches de 11 à 12, c'est musique, etc. qui commence. Une émission essentiellement consacrée à la scène émergente et alternative que vous pouvez également retrouver sur les blogs de Radio Canu. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir dans les studios Nico Gamet. Nico Gamet, bienvenue.
Merci.
Donc, bonjour. Bonjour à toi, à vous, pardon. Il y aura deux albums. On va écouter. Vous avez fait deux albums, c'est ça. Il y a le Signe du Cœur et puis un album qui est destiné, je crois, à l'Allemagne, c'est ça.
Oui, qui s'appelle Living Tomorrow.
D'accord. On va un peu jongler entre les deux albums.
Ouais. On va parler de tout ça.
Avant tout, j'envoie un petit morceau de générique, comme c'est la tradition.
Allez.
C'est parti. Ouais, à tout de suite. Oui, chers auditeurs, comme je vous disais précédemment, c'est musique, etc. qui commence avec Nico Gamet. Alors, Nico Gamet, je sais pas, déjà bienvenue à Radio Canu, vous êtes déjà venu, je crois, dans Patchworld avec Delphine, que je salue. Et peut-être avant d'envoyer un premier morceau, vous présenter, parler un petit peu de vos parcours de votre parcours de musicien et peut-être vous êtes passé par d'autres formations avant de vous produire en solo, je sais pas.
Ah oui oui.
Ça alors, fait longtemps que vous faites de la musique, non?
Vu mon âge un peu avancé maintenant, ouais, ça fait un petit moment. On n'est plus éternellement jeune, bien qu'on le soit encore dans l'esprit. J'ai commencé très tard la musique, moi. Enfin, à avoir la volonté d'essayer d'en vivre. Et donc, j'ai attaqué à partir de 22-23 ans. Je me suis enfermé avec deux groupes. Donc, un groupe qui s'appelait Mock, enfin, Mother Cad Mock, et un autre groupe qui s'appelait Triste Cire. On était dans une petite baraque.
Ah, Triste Cire, je connais, moi.
Voilà, et donc du coup, c'était les débuts. Triste
Cire, ça existe encore ou pas?
Non, enfin, c'est un bon stand-by, ouais, c'est un bon stand-by, mais bon, ils ont fait des belles choses. Hein, et puis moi, j'ai démarré avec eux, c'était super.
Et vous étiez au chant déjà?
J'étais batterie et chœur.
D'accord.
J'étais à la batterie et au chœur, mais on composait, c'était toujours dans l'esprit des power trio. Donc moi, je viens vraiment du rock des années 90, c'est-à-dire du grunge, du rock, du punk. C'était vraiment, j'ai fait ça pendant 10 ans, plus de 10 ans. Et c'était très formateur, très sympa. Et du coup, je regrette pas du tout. Puis après, à côté de ça, j'ai commencé à avoir, au fur et à mesure du temps, parce que ça, on vient pas de batteur du jour au lendemain. Même si, parce que j'étais un peu plutôt batteur du dimanche. Hein, vraiment, j'ai décidé de m'y mettre parce que il y a eu des amis qui m'ont dit, mais allez, vas-y, faut y aller là. C'est le moment. Et puis il fallait se permettre psychologiquement de se dire, allez, bon, on va tenter l'aventure. Voilà. Et après, à côté de ça, je faisais toujours des sessions studio, des petits arrangements à droite à gauche. J'ai été batteur pour Nicolas Nourry, pour le groupe Georges, j'ai même fait un peu de variété. J'ai fait pas mal de. Je m'en rappelle plus, j'ai fait beaucoup de choses, quoi, en termes de batteur studio et puis de batteur de session. Et puis petit à petit, l'idée d'une introspection, c'est faite. Et j'ai avec un ami qui s'appelle Edouard Cocard, et on a fait ce premier album, Le Signe du Cœur, mais petit à petit, en l'espace, on a mis au moins 4-5 ans pour le faire. C'était vraiment en home studio pendant de nombreuses années. Et là, maintenant, il y a ce deuxième album, enfin cet album inédit qui sort en Allemagne avec un petit coup de bol, enfin un petit coup du destin, et un travail qui a été fait avec un collectif qui s'appelle Ginger Moon, avec un label qui s'appelle Nouvel Acte, qui nous ont donné un petit coup de main pour l'édition. Et voilà, qui est distribué par IT Music en Allemagne et Rustendal en France.
Et le cheminement, du fait de passer de batteur à auteur, c'est parce que vous écrivez les textes, vous faites les mélodies.
Ouais, pour la plupart, ouais, c'est un peu comme ça que ça se passe.
Et le cheminement pour aller du batteur, enfin du rôle de batteur jusqu'à celui de chanteur, vous sauriez l'analyser.
Ben j'ai toujours fait ça depuis que je fais de la musique. En fait, je faisais toujours. Je dirais que même, je pense que, enfin. J'étais plus prédisposé à faire que du chant naturellement que de la batterie. La batterie c'était vraiment fastidieux. Et après, bah, petit à petit, comme je pouvais pas m'empêcher de chanter, je faisais souvent les chœurs pour mes groupes. Et puis après, j'ai fait 10 ans de batterie chant avec mon groupe Mock. Donc du coup, ça travaillait un petit peu l'endurance, puisque c'était quand même vraiment du. C'était vraiment dans un esprit un peu à The Drive-In où il y avait un petit peu, il y avait un petit côté pop, parce que moi, j'ai vraiment une voix. J'avais une voix assez fluette au début, qui était assez vers la pop, et j'ai forcé. Parce que j'aimais tellement le rock à envoyer un peu du grain. Et voilà, donc je dirais que le chant, c'était plus naturel. Et après, pour la composition, bah, c'est, comme je suis assez autodidacte, je pianote de la main droite. Là, c'est fastidieux.
Vous écrivez au piano?
J'ai une guitare aussi, mais enfin bon, je m'en sers vraiment très rarement. Et quand je m'en sers, bah, disons que si je veux faire une compo, il me faut vraiment 8 heures pour faire une compo. C'est vraiment accessoire, c'est parce que j'ai envie d'entendre ces sonorités-là. En fait, c'est la, comment dire, la volonté de ce qui se passe un peu dans ma tête qui implique le processus de création. Donc du coup, voilà, j'ai aucune notion de solfège, ou très peu. Voilà.
Vous avez un groupe qui vous accompagne, qui est
Alors j'ai deux équipes. J'ai une équipe pour une formule à deux, une formule un peu intimiste, et puis une équipe à quatre. Et bon, bah, je dois dire qu'aujourd'hui, c'est surtout la formule à deux qui fonctionne, parce qu'elle est beaucoup plus flexible, malléable, elle peut s'adapter à plein de choses.
Donc vous au chant et votre guitariste, c'est ça ?
Alors moi, du coup, quand on a... du coup, ouais, maintenant, on fait, je suis à la batterie et au chant, et j'ai un piano aussi, enfin un clavier, où je fais quelques titres au clavier. Et le guitariste, il a un pedal looper et il a un harmoniseur de voix. Du coup, ça quand même, ça envoie. D'ailleurs, c'est, du coup, ça donne un côté assez atmosphérique, à l'esprit du live. Et après, pour la Formule 4, c'est pareil. C'est un peu les copains qui jouent avec moi. Ils sont un peu multi-instrumentistes. Il y a Nicolas Chonajokov qui est un excellent guitariste et aussi un excellent batteur, un excellent chanteur. Enfin, de talent. Il y a Raphaël Charpentier, bon, qui est dans d'autres sphères en ce moment, mais qui est sur Paris, mais qui fait de la batterie, de la basse, du clavier. Et toujours Joris, qui de temps en temps peut prendre la basse et fait les chœurs aussi. Et donc, du coup, il y a une espèce de. Je dirais que le. On essaie de faire le maximum avec à 4, et puis la primauté, on donne vraiment de la primauté au chant. Tout le monde essaie de chanter pour essayer de donner un petit peu du corps, un petit peu de texture au live. Quand on a l'occasion de pouvoir s'exporter.
J'ai envoyé une chanson de suite du premier album, Le Signe du Cœur. On va écouter l'Ivresse, mais pour votre style musical, quelles que soient les formations, on parlera de quoi pour Nico Gamet ?
Quel que soit le style musical, ça va parler de quoi ?
Non. De quel style musical on peut parler pour votre musique, en fait ?
Généralement, ouais, je dirais que c'est presque. La classique pop, hein, vraiment, c'est pour ce premier disque, c'est très classique, beaucoup plus que ce que je l'espérais. Voilà. Voilà, je dirais que c'est de la pop un peu folk aussi, mais
on écoute l'Ivresse.
Ouais.
Douce qui s'efface. patine dans la glace. Au lieu de mon retour, j'espère cette mélodie qui chante à la folie. Un air de cet amour à venir.
Gamet sur Radio Canut dans Musique etc. avec le titre qui ouvre son nouvel album, son premier album, Le Signe du Cœur. C'était la chanson L'Ivresse. Alors tu l'évoquais un petit peu hors antenne, ça serait intéressant pour les auditeurs, peut-être parler du sens du texte et puis la couleur que tu as voulu lui donner. Ce que tu me disais hors antenne là, à propos de la couleur de cette chanson.
Ah oui oui, et bien je me rappelle très bien ce morceau, je le composais quand je faisais des enfin, souvent quand on compose un disque personnel, c'est un peu la récré, donc c'est on compose des fois entre deux balances, quand il y a un piano sur place ou voilà assez rapidement. Et c'est vrai que l'humeur de ce que j'avais, de ce que je donnais naturellement, c'était assez mélancolique et c'était assez un peu plus dans l'esprit un peu Patrick Watson, épuré avec des langueurs comme ça, des fois un peu rubato. Et donc du coup avec mon acolyte Edouard Cocard, on a essayé de donner un peu de diversité au titre, parce que sinon c'était un peu monocorde, un peu monochrome. Et ce morceau, du coup, on lui a donné un petit côté un peu Sgt Pepper's qui le ranime un petit peu, qui ranime un peu le texte à de la vie. Je trouve ça intéressant. Et après, concernant le texte, c'est l'histoire de quelqu'un qui espère revoir sa douce, quoi. Hein. C'est un petit peu ça, l'ivresse. Qui n'est pas sûr de la revoir. Il a vécu un rêve éveillé un instant et il ne sait pas s'il va revoir la personne.
Ouais, c'est pas une chanson sur quelqu'un qui se biture spécialement, quoi.
L'ivresse, ouais, non, mais c'est sûr. Après, il y a plein de jeux de mots. Hein. On peut mettre des métaphores un peu partout là où l'auditeur veut bien l'entendre. Où ça lui parle, mais après moi là c'est vrai que je désincarne un petit peu l'esprit, et c'est vrai qu'il faut quand même laisser un peu la part d'imagination.
Après, ouais, chacun puisse se projeter.
Oui, non, après moi je, dans l'état où j'ai écrit, c'était un petit peu ça. Voilà, j'ai perdu la trace d'une douce qui faisait, mais après il y a plein de d'allusions à la drogue, au sexe, plein de métaphores, puisque justement c'est le manque de l'autre. Donc on peut faire des analogies, c'est sûr et certain.
Donc vous parliez de Sergeant Peppers. Vos références, vos influences, peut-être dans votre vie d'auditeur et puis aussi celle de votre vie de musicien et de chanteur.
Disons que
ce que vous avez beaucoup écouté, par exemple.
En tant qu'auditeur, vraiment, aujourd'hui, moi, je crois qu'il n'y a plus de carcan. En tant que musicien, on a envie de découvrir des choses différentes. Après, entre ce qu'on écoute, ce qu'on adore et ce qu'on est capable, et ce qu'on fait avec nos moyens et nos espèces de suites logiques, un petit peu suites logiques qui partent d'accidents. Vous voyez, on commence au piano, puis on a un petit ordinateur, on a une carte son, et puis on fait un peu avec les moyens du bord, et ça donne, ces suites d'accidents donnent ça. Et puis après, il y a nos influences et nos accointances, enfin nos connivences avec l'équipe avec qui j'ai travaillé pour ce premier disque. Et donc on était vraiment dans un état d'esprit à ce moment-là. On écoutait Ram de McCartney, on écoutait beaucoup de choses, on écoutait aussi un peu du Grizzly Bear, on écoutait plein de choses. Et puis après, pour ce qui est des textes, j'essaie d'être. On était dans une émulation, enfin pas dans une émulation, mais une sorte de sphère artistique. Parce que l'émulation, c'est un peu compète. Mais on était dans une sphère artistique, on était dans notre petite bulle. Et donc, forcément, après, le constat fait que ça sonne un peu comme ça. Mais ça aurait pu partir autrement. Là. Les bases, souvent, les bases des chansons sont piano-voix ou guitare-voix. Donc il y a pas à chier. C'est ce qu'on en a mis, et j'aime bien ce petit côté un peu artisanat de ce disque où on sent la chaleur du son. Alors parfois il y a un côté un peu trop jazz, ça manque peut-être de. Mais il y a d'autres morceaux qui sont plus aussi dans ce que j'aimais bien à une époque. J'aimais bien le trip hop, j'aimais bien Sigur Rós. Il y a un titre qui s'appelait par exemple L'espoir d'ivoire, qui a été un peu composé dans cet état d'esprit-là. D'ailleurs c'était le premier morceau qu'on a composé. Que j'ai écrit, qui a été arrangé avec l'équipe. Voilà.
Ouais. Par contre, les textes, c'est vrai qu'ils sont assez originaux, parce qu'en fait, moi, j'ai pas trop fait de lien, parce qu'il y a vraiment, il y a des fois en français, ça, on dit tiens, ça ressemble à ça, ça ressemble à ci. Là, je trouve qu'il y a une vraie originalité dans les textes, quoi.
Eh ben, je suis content de l'entendre, parce que souvent j'ai beaucoup de critiques par rapport.
On dit que ça ressemble à quoi là ?
Eh ben, on me dit que c'est trop compliqué, que c'est trop poétique, c'est trop mystérieux, c'est trop sibyllin, c'est tout ce que vous voulez.
Ça peut être des qualités, non ?
Ouais, ça peut être des qualités, mais après ça dépend. En fait, c'est vrai que le problème, c'est que moi j'essaie de c'est la mise en bouche. C'est la forme qui fait le fond des fois. C'est-à-dire que j'écris aussi par rapport à certaines sonorités et par rapport à ce que mon être peut essayer de ressortir de mieux. Hein. Mais après, enfin, c'est relatif, hein, évidemment. J'ai cette espèce d'envie de quand je me plonge dans une histoire, et ben je rentre dedans, quoi. Donc du coup, je m'amuse avec les mots des fois. Et j'ai du mal à épurer. Et c'est vrai que parfois, pour ce qui est des chansons, il y a beaucoup de gens qui me disent bon ben on comprend rien de ce que t'as écrit, quoi. On comprend rien, ça, et du coup ça énerve. Donc je comprends, hein, j'aimerais bien essayer de simplifier, d'épurer. Ça serait vraiment un bel exercice d'arriver avec un mot à ressortir une émotion, ce qui est plus facile avec l'anglais, qui est plus évocateur, parce que le français peut-être précis, ou je sais pas, c'est comme c'est ma langue maternelle, j'ai envie d'être précis. Voilà.
Puis il y a beaucoup de gens qui me disent que l'anglais c'est la langue du rock.
C'est la langue des oiseaux.
Ouais. Enfin, et que c'est plus facile. I love you, ça sonne mieux que je t'aime, je sais pas.
Parce qu'on est habitué, nos oreilles sont habituées. Ouais. C'est comme les gens qui écoutent du jazz, ils sont habitués à avoir des accords un peu qui sortent un peu des clous. Ils sont tellement habitués. Voilà. Après, moi, ce que je vous dis, c'est j'ai cette méthode-là. Et après, j'essaie évidemment de donner du fond. Ça part d'une rêverie, c'est un peu de l'écriture automatique. Et puis après, je les retravaille, j'essaie d'aller au bout de moi-même, enfin, d'essayer d'être le plus sincère possible. Mais il est vrai que j'ai encore quelques carcans, de même que dans l'écriture. Il faut pas se voiler la face, on a des fois des facilités, on sort des accords du tiroir. Et donc, du coup, il faut essayer d'éviter cette facilité, d'essayer d'être le plus en accord avec soi. C'est le but de la musique. Et puis, advienne que pourra plus tard.
raison d'être sans merveille. Et là, la saison du paraître a jeté une ombre sur mon soleil. De l'espoir qui n'en a que l'air. Je crie au vol pour les mensonges de ces idoles. Hélas, la rançon du cœur a condamné l'âme sœur au malaise. C'est
Nico Gamet avec la chanson Métropole, toujours extrait de son premier album Le Signe du Cœur, sous le nom, je précise, de Nico Gamet, parce qu'il a fait plein de musique avant de se lancer en solo.
Et toujours avec d'autres encore. Hein.
Ouais. Et peut-être dire, évoquer cette chanson alors, Nico Gamet, c'est la deuxième de l'album Métropole, c'est une chanson sur Lyon, on peut dire, ou...
Pourquoi pas, mais en fait non, c'était plus une chanson sur Paris, parce que c'était un petit peu comme l'histoire, c'était souvent quand on est un peu jeune et con, on se dit allez, on va monter à Paris, on va voir cette dynamique de la métropole qui va ce qu'elle va nous offrir, mais en fait elle fait du mal, cette métropole, donc du coup on en souffre, et du coup j'en ai écrit une chanson qui m'a fait du bien, et du coup c'est ce que j'ai essayé de d'écrire, dire voilà, c'est de ce récit que j'imagine un monde de merveille, et c'est du coup, enfin, c'est un peu une boucle. J'ai décidé d'en faire une chanson qui me fait du bien, parce qu'en fait, l'absolu, tout est vain dans la vie, à part le présent et le fait de faire ce qu'on est fait, enfin, la sincérité de ce qu'on fait. Et donc, du coup, cette chanson, elle m'a fait du bien. Donc, du coup, c'est l'essentiel. Retourner à l'essentiel.
Ouais, par expérience, Paris, c'est une ville qui est... Lyon est une ville dure aussi, mais Paris est une ville très dure.
Lyon, c'est une autre mentalité. Après, ouais. Moi, je suis d'origine de la région, mais je viens de la campagne. Donc, du coup, déjà, rien que le fait de venir à 18 ans à la fac, ça a été un changement. Et bon, après, oui, il y a plusieurs changements, mais bon, petit à petit, bon, on s'y fait, hein, on s'adapte, la peau s'épaissit. On n'a pas à se plaindre non plus, quand même. On est bien à Lyon.
Ouais, moi j'aime bien Lyon.
Ouais.
J'en ai du mal, mais vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, mais la composition, la mise en place des chansons, plus précisément, comment on laisse les morceaux. Chez Nico Gamet.
Comment on compose
Enfin, le processus créatif de votre...
J'aurais du mal à le dire. Il y a une chanson, par exemple, qui s'appelait Comme. La mélodie est venue dans la douche, donc voilà. Mais la plupart du temps, c'est quand même une suite d'accidents. On cherche au piano, on pianote un petit peu deux, trois trucs. Et puis, d'un seul coup, il y a deux suites d'accords qui se passent, donc qui donnent envie de chanter dessus. Et une mélodie, puis après, donc du coup, on est bien, on est dans une espèce de phase de plaisir instantané. Et puis après, il y a la raison qui revient. Donc qui essaie de réfléchir à une espèce de structure, et puis après on se refait un plaisir, on développe, puis après on est pur. Donc c'est un petit peu comme ça que ça se passe pour la musique. Et pour le texte, pour l'instant, j'ai jamais réussi à écrire un texte avant la musique. Je me suis toujours calé sur les pieds. C'était comme une sorte de mot d'ordre pour éviter de m'évader ou pour essayer de... Je sais pas, j'ai plus un mélodiste qu'un auteur, je pense.
Cela dit, c'est pour ça que ça sonne aussi bien, quoi, parce qu'il y a la mélodie, puis les mots se posent dessus.
Ouais, vraiment, pour moi, la chanson, c'est vraiment ça, à la base. Alors, du coup, il y a des gens qui disent, enfin, il y a des auteurs-compositeurs, moi, j'écoute un peu, qui parlent aussi d'un nœud où les paroles et la musique viennent en même temps. Ouais. Je ne sais pas comment ils font, je trouve que c'est...
Je sais pas si vous connaissez André Bonhomme, c'est son cas, lui. Enfin, c'est un chanteur français... assez classique. Il dit que c'est tombé in vivo pour lui.
Et ça, moi, j'ai jamais réussi à le faire. Je pense que j'ai pas assez confiance pour improviser en français tout de suite. Tout de suite, il faut que je passe dans une autre sphère. Donc peut-être que justement, il y a une dichotomie entre les deux et d'où ces critiques. Mais après, bon, à force, on retravaille, on réévalue un petit peu tout ça et on essaie de. Je pense que ça donne des jolies chansons, mais c'est mon avis. Ça m'a fait du bien de le faire, en tout cas.
En dépit des menaces, elle s'emplit de parades, titubant sur place, faisant fi de l'orage qui s'attarde sur son visage, embuée de mirages. Elle s'éreinte de ce liquide viscéral, embrumé de rage. Il s'empare de son âme. Je te prie de lâcher cette emprise qui divague en mon trouble et s'enfuir. Ce navire de chavire sur les traces, ces étals qui nous rend sourds. Je te prie, je t'en prie. Ma promise se délaisse au profit d'une liesse qui vire au vacarme. Finir en habit au précipice du drame. Ta promesse a failli dans l'excès de ce verre, retenant l'alarme et la fièvre applaudit pour ce concert de larmes. Je te prie de finir le chapitre de chavir sur les traces, c'est du tac qui nous rend sourds. Je te prie, je t'en prie.
Nico Gamet sur Radio Canut dans Musique, etc. avec le morceau L'Emprise, toujours extrait de son premier album, Le Signe du Cœur. Évoquer cette chanson ensemble, Nico Gamet, peut-être sur le sens du texte, et puis comment on l'a vu le jour.
Là, du coup, comme en fait, ça, je redécouvre, parce que souvent, j'écoute plus vraiment ce qu'on a fait, on passe souvent un peu à autre chose. Quand je réécoute là un petit peu en tant qu'auditeur libre, je me dis qu'il y a eu quand même beaucoup de joie pour la composition de ce morceau. Et le texte parle de, donc évidemment d'une emprise, d'une addiction, toute forme d'addiction. Et en même temps, il y a le contraste entre cette espèce de joie qui est délivrée dans la musique. Et puis l'autre qui l'auteur en tout cas qui peut-être se parle un petit peu à lui-même sur ces formes d'emprise, toute forme d'addiction. Donc c'est une manière un petit peu de tempérer un peu le côté moralisateur qui est un peu chiant dans une ou pesant dans un texte. Et puis après j'ai quand même mis mine de rien un petit peu de dramaturgie sur c'est quelqu'un quand on va un petit peu trop loin dans l'addiction. Voilà, donc après chacun écoutera ce qu'il voudra, mais vraiment il y a là, des fois, enfin vous voyez quand j'écoute, ça me fait penser un peu à Love Is All, ça me fait c'était le groupe, le chant d'un des musiciens comment ça s'appelle, c'était d'un groupe de rock, de heavy rock, comment ça s'appelle, oh là là, Deep Purple.
Ah.
Voilà, c'était lui qui avait composé Love Is All. Je me rappelle plus le nom du groupe, mais exactement. Mais c'est un peu dans cet esprit-là. Mais même encore une fois, c'était pas voulu. Mais après, comme on est musicien, je vous dis, chaque fois on trouve une référence, quoi. Je peux pas m'en empêcher. Je préfère. Mais bon, voilà pour ce qui est de ce morceau.
Et du coup, en fait, il y a beaucoup de gens qui adorent la musique, qui collectionnent des CD, des vinyles. C'est mon cas. C'est pas tout le monde qui apprend à jouer d'un instrument, que ce soit de la batterie ou du clavier, qui fait des chansons, qui apprend à chanter, qui fait des disques, qui va sur scène. Vous sauriez expliquer ce qui vous a fait tilt pour passer à l'acte et avoir une vie de musicien, de chanteur.
Je pense que c'est venu tout doucement parce que j'ai. Je pense pas que j'étais. Tout ce qui est enfance, adolescence, j'ai pratiquement pas fait de musique. J'étais même assez médiocre. J'ai fait 9 mois de piano. J'ai l'impression que c'était du travail après le travail. J'ai fait 2 mois de batterie. Je pense que je suis pas toujours très bien tombé, bien que ce prof de piano était gentil, ce qui m'a fait beaucoup bosser la feuille. Je bossais jamais, mais il me disait c'est pas grave, on va faire autre chose. Donc il était déjà dans une approche. Une approche didactique sur le jeu, qui était basée sur le jeu, sur le plaisir. Et je pense que ces choses sont venues petit à petit parce que j'ai pris du plaisir. J'ai commencé vraiment en tant que débutant, vraiment débutant comme tout le monde, au lycée. Et on était avec des copains, on a pris du plaisir ensemble. Et donc du coup, après, plus on prenait du plaisir, plus on avait envie d'apprendre. On fait ce qu'on aime. Même je suis pas capable de faire. Du métal symphonique, parce que peut-être que j'en écoute pas assez, mais je fais ce que finalement on a essayé de reproduire ce qu'on aimait, et puis petit à petit, pour de là à vouloir en vivre, je pense que c'était un peu un rêve. Il a fallu se lancer, et puis après c'est l'opiniâtreté, je sais pas comment dire, qui a fait ça, parce qu'il a fallu s'accrocher un petit peu, même pas mal, et puis je m'accroche encore toujours.
Et comme tu disais,
voilà, pas facile.
comme vous disiez, en fait, vous arrivez à en vivre.
J'arrive à en vivre, mais après, moi, au départ, j'aurais bien voulu vivre que de mon art, mais c'est impossible. Enfin, faut gagner au loto, j'en sais rien. Après, j'essaye de vivre de la musique. Alors après, j'ai des principes, et encore, je sais même pas si c'est un principe. Je sais pas pourquoi c'est venu. En tout cas, je vis de la musique et j'essaye d'en vivre parce que ça me fait plaisir. Alors j'ai 10 groupes. Pour dire à la réalité, j'ai des groupes de reprise, j'ai 3-4 groupes de reprise, j'ai 3-4 groupes de compo, puis je fais ma tambouille avec, je me démerde un petit peu comme je peux, je me débrouille, pardon.
On peut dire, on peut le dire ça quand même.
Donc voilà, après, les projets personnels comme ça, c'est vraiment, c'est à côté, on va dire. C'est à côté de mon métier de musicien, à côté de je fais comme je peux. Mais je vais vous dire une chose, peut-être qu'il devrait pas être dite, mais, quand on est trop sur un projet aussi personnel, ça devient vraiment fastidieux et c'est prenant psychologiquement. Et c'est bien aussi de porter sa pierre à l'édifice avec d'autres projets. C'est vachement, c'est salvateur. de travailler pour, avec les autres. Par exemple, je joue dans un groupe qui s'appelle L'Ordre Bi. On va faire le 30, pour faire la pub, le 30 septembre, on va jouer aux abattoirs de Bourgoin. En première partie de Luc, on a monté un spectacle. J'ai appris beaucoup de choses auprès de ces gens, auprès de Franck Vialet. Je joue avec Monsieur Timide qui a dû passer dans votre émission.
Oui, il est passé. Ouais.
Donc j'ai fait des arrangements et
je
tout.
Sais,
donc on l'a. C'est un autre état d'esprit. Donc voilà, je joue pour Joris qui lui carrément dans Patrick Watson complet. Puis, et ça me fait plaisir de faire des choses comme ça. Voilà. Et le processus est devenu petit à petit.
Mais d'où me viennent ces lieux?
Pour se plaire dans le mystère de...
Voilà, Nico Gamet avec, on a écouté une petite intro qui s'appelle Prélude Romance, suivie de la chanson Romance, où oui. On retrouve le nom de l'album, Le Signe du Cœur, c'est une de mes préférées, c'est là, dire, voir comment, ma question qui revient, comment elle a vu le jour, sur le texte. Et...
Bah, c'est l'état amoureux, donc, qui a vu cette chanson. Naître, en tout cas le texte, en tout cas.
C'est une chanson d'amour.
Ah oui, c'est une chanson d'amour, ouais, il faut le revendiquer. C'est surtout l'état amoureux, l'état d'une... Et j'ai voulu le rendre un peu plus permanent dans une chanson, donc chaque fois que je l'écoute, en fait, j'ai l'impression de revivre cet instant de, enfin, de, entre guillemets, d'une forme de... Ouais, de pureté, un peu, voilà. Donc c'est pas mal, ça fait du bien. Et donc ouais, je l'ai écrit parce que du coup c'était aussi un peu une lutte contre les rapports la fiction, le jeu qu'on peut jouer, le jeu de la du couple en société. Donc du coup c'était aussi un côté voilà, essayer de dire bah voilà, nous enfin dans cette chanson, dans cette romance, on est qu'amour pur, mais enfin bon du coup, c'est un peu une forme de rêverie aussi. Je me demande bien si je fais pas partie du cirque aujourd'hui. Non, mais je trouve que ça fait du bien. Ça remet les choses en perspective dans une chanson. Puis ouais, ça m'a fait. Ça va. Ouais, c'était un petit moment d'émotion. Puis du coup, ça repart dans un bon état d'esprit. Après, j'aime bien cette chanson. Puis il y a le côté aussi, toujours pareil, Sergeant Peppers musicalement, ouais. C'est pouf 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 pouf, pouf. Et puis il y a un côté un peu chanson franchouillarde, un peu c'est The Fool on the Hill et tout ça. Voilà.
La case studio pour Nico Gamet, comment ça se passe? C'est un plaisir, c'est...
Ça dépend dans quelle phase on rentre, parce que moi j'ai... Il y a des phases qui sont sympas, qui sont très sympas, c'est les phases de maquette, parce que du coup ça va très vite, on se prend pas trop la tête. Et après du coup ce disque, bah après il y a des phases un peu le mixage, c'est des phases essentielles parce que c'est le vernis tout ça, mais c'est des phases qu'il faut pas rater, et vous faut être quand même relativement sérieux, enfin relativement extérieur, avoir un bon sens de l'autodérision et de l'autocritique pour pouvoir faire quelque chose d'assez révélateur. Donc ça, c'est un petit peu plus fastidieux. Quand on rentre vraiment dans le dur, il faut être précis, c'est autre chose. Mais c'est une autre forme de gymnastique. Mais ouais, je pense que le plus sympa, c'est quand même la phase de le départ, quoi.
Ouais. Mais puis en plus, enfin, maintenant, comme je dis à chaque fois, ça coûte des sous-sous, donc on n'a pas trop le temps de créer en studio, j'imagine.
Ça coûte de moins en moins cher maintenant le studio.
D'accord.
Cet album, en fait, c'est juste surtout une question de temps. Ça prend du temps. Parce que si on veut faire les choses à peu près correctement, si on a des exigences après.
Sur le premier dont on a écouté des extraits, il y a quand même 13 chansons. Hein.
Voilà, il y a 13 chansons, mais après, la phase d'écriture, ça prend pas autant de temps que ça. Après, c'est trouver des plages horaires et des jours pour pouvoir se caler avec les copains pour composer. Enfin, c'est plus ça, en fait, parce que cet album, en fait, si on compte les nombres de moments de création, ça prend pas beaucoup de temps, mais après, ça s'est étalé sur 4-5 ans. Comme je vous ai dit, c'est qu'on se voyait une fois par mois, une semaine par-ci, on se revoyait 2 mois plus tard, on faisait un titre, on faisait 2 titres, puis après, celui-là, on le virait parce qu'il nous plaisait pas, et puis après, on passait une deuxième étape, troisième, quatrième, ça prend un petit peu de temps, puis après, il y a les recherches de partenaires, donc alors là, ça, c'est encore autre chose, je vous dis pas le... Quand on est musicien, c'est quand même vraiment. Enfin, il y en a qui sont doués pour ça, mais bon, on fait comme on peut. Après, on est amené à être artiste producteur aujourd'hui, et donc il faut un peu tout faire. Alors, le mirage de l'internet nous dit que c'est possible, mais la réalité, en fait, c'est que c'est toujours pareil. Hein. C'est toujours un peu les plus gros qui gagnent. Google prend un tiers des revenus publicitaires dans le monde, et puis nous, on a peanuts, alors que c'est eux qui utilisent nos contenus. Bon, je ne vais pas rentrer dans la politique parce que, bon, de toute façon, vous voyez bien ce que je veux dire. Et après, c'est compliqué. Enfin, pour moi, je trouve que c'est compliqué. Et puis, je trouve que c'est compliqué de faire la promotion de son projet et d'avoir la double casquette. C'est compliqué parfois.
Et, voilà. Et donc, vous l'avez un peu évoqué, mais là, ce qu'on appelle maintenant la gratuité de la musique, avec pour 4,99€, on a un compte Deezer, on a accès à tout, quoi.
À la rigueur, enfin ouais, 4,90€. Non, mais moi je suis content que la musique soit moins chère. C'est bien, mais après, le problème c'est comme tout est économie, comme tout est argent, il faut bien à un moment donné qu'il y ait de la rémunération pour les artistes. C'est surtout ça, ça me pose pas de problème. Moi, je suis heureux qu'il y ait cette forme de gratuité-là, si c'est la pub qui paye ou si c'est... Enfin, j'en sais rien, mais il faut trouver un système. Heureusement qu'on a le système d'intermittent en France. Vraiment, merci, 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 merci. Et de ce côté-là, mais sinon, ouais, on est... On va avoir plusieurs débats, parce que la propriété intellectuelle, on est dans un débat de... Avant, elle n'existait pas, et puis elle s'est mise à exister en 1800, pour pouvoir un peu rémunérer les artistes. Quand il y avait quelqu'un qui jouait dans un bar, et qu'on voyait que le barman jouait la chanson de Tartempion, au bout d'un moment, il s'est rendu compte que le barman, il se faisait beaucoup de sous en houblon, et qu'au bout d'un moment, c'était ça le principe. Après, moi, je suis content que la musique se partage de manière gratuite, sur cette espèce de liberté, de communication, etc. C'est intéressant sur le principe. Après, le problème, c'est qu'il y a aussi le principe de réalité qui vient se fourvoyer. Et comme tout est argent, il faut qu'il y ait un système de rémunération aux artistes. Alors, le système de Deezer, c'est un moindre mal. Après, c'est comment Deezer rémunère les majors, comment Deezer rémunère les indépendants. On est encore dans un milieu qui est très opaque. Le marché, entre guillemets, il n'est pas stable de ce côté-là. Après, c'est mon point de vue. Hein. J'ai pas la solution. Donc aujourd'hui, on fait beaucoup de concerts, on est révélateur. Mais l'argent, moi, ça me pose pas de problème de ce côté-là, parce que de toute façon, qu'on gagne 100 000 euros ou 1 euro, la vérité, elle se passe dans l'instant. Vous voyez ? Moi, je pense pas du tout à mon cachet quand je joue. Je m'en fous. On a joué gratuit pendant des années. Après, c'est après le concert, deux jours après, quand je vois que je dois payer mes factures, ça me fait chier. Mais l'instant, je pense pas au fait que je vais gagner des 1000 et des 100. Je pense à être avec quelqu'un, quand on se regarde droit dans les yeux aujourd'hui, maintenant, on pense à ça. Et c'est ça le plus important, c'est qu'il y ait une transmission de sentiments par un vecteur. Ça, c'est l'essentiel. Et après, bon, ben, pour ce qui est de la liberté artistique, il faut les rémunérer. Après, ou alors une mutualisation des efforts, comme le système d'intermittent le fait. Et la SACEM essaie de le faire comme elle le peut. Bon, bah, après, c'est du lobbying, c'est de la politique. Je suis pas politique, moi, j'arrive pas. Je suis dépassé par ça. Je fais mon petit microcosme. J'essaie de trouver mon petit écosystème. Voilà.
Vous parliez des concerts. Nico Gamet sur scène, c'est du plaisir, du track, de la concentration, slash. C'est comment ?
Pour un projet solo, ça dépend. Quand je joue pour les. Quand je suis avec l'Ordre B, j'ai un peu de pression. Mais j'en ai moins, comme je suis derrière, je suis à la batterie, au chœur. J'ai plus envie d'en découdre, parce que c'est un groupe de rock. Donc je dirais que le stress se transforme en excitation. J'ai un peu de trac quand même pour mon projet, parce que c'est, on va dire, entre guillemets, plus délicat. On marche un peu plus sur des œufs. Donc du coup, si on n'est pas dans l'incarnation pleine et totale de ce qu'on a pu vivre, et ben, c'est raté. Surtout en français, ça se sent tout de suite quand on n'est pas là. Donc ouais, je suis un peu plus stressé, et puis il faut se préparer, quoi. Ça demande un peu de préparation, voilà. Là, et donc je joue pour la pub. 2 décembre dans une petite salle qui s'appelle le Battleur.
D'accord.
Voilà, une petite salle de concert qui vient de se monter, donc j'invite les gens à venir, et c'est à Fontaine-sur-Saône, et je serai là-bas le 2 décembre.
Alors, et donc vous allez jouer le Signe du cœur et puis l'album en
cours. L'album. Ouais, c'est un album inédit, en fait, ouais. Qui sort en Allemagne.
On va finir sur un morceau de cet album, mais je vous laisse poursuivre.
Eh ben, c'est comme au fur et à mesure qu'on avance dans les projets, on avait décidé avec le collectif Jigdormoon et ce label Nouvel Acte de sortir un single aux côtés d'Hacienda, des éditions et productions d'Hacienda. Et en fait, ça a plu à un label allemand qui a dit, bah, moi, je voudrais que de l'anglais. Et donc, on a préparé cette inédit-là, avec cet album inédit, où il y a 5-6 morceaux nouveaux, tout en anglais. Donc, ça donne une couleur encore plus terroir, très blues cajun, ou très très pop ancré dans le côté Ram de McCartney. Donc là, on va écouter Living Tomorrow. Mais il y a des autres trucs qui sont plus Tom Waits dans cet esprit-là, en attendant la préparation du prochain, qui sortira, je sais pas, 2017-2018.
Vous reviendrez ?
Ah bah avec grand plaisir, bah avec merci. Grand plaisir.
Bon, on va se dire au revoir, on va se quitter en musique.
Au revoir.
Au revoir, à bientôt Nico Gamet. Alors je tenais à dire qu'on pourra écouter cette émission sur les blogs de Radio Canu, à la rubrique musique, etc. Dans la journée ou en début de semaine, je vous ferai signe si vous voulez partager sur... Ah oui, puis où on vous retrouve Nico Gamet ?
Ah bah vous, il y a un site qui s'appelle www.nicogamet.com. Alors Nico avec un K, N-I-K-O-G-A-M-E-T. Et puis après, il y a le Facebook du même nom. Voilà.
À bientôt, Nico Gamet.
À bientôt, merci beaucoup.
On se quitte avec Living Tomorrow.
Allez.
Et patientez un petit peu, il y a une émission tout de suite après. Musique, etc. C'était donc Musique, etc. avec Nico Gamet. Oui, voilà, vous avez pu écouter musique, etc. avec Nico Gamet, c'était sa chanson Living Tomorrow, son album destiné au marché allemand. Dans quelques instants, Blabla Mix, la deuxième émission, de Blabla Mix. Ça commence dans quelques instants. Moi, je vous donne rendez-vous sur les blogs de Radio Canu à musique, etc. pour écouter l'émission ainsi que les précédentes. Je vous mets un petit bout de générique et tout de suite, Blabla Mix. À la semaine prochaine, 11h midi.